Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La messe d'aujourd'hui, mes bien chers frères, nous parle de la foi. Si vous avez lu la traduction de l'Épître, Épître de Saint Jean, l'apôtre, qui nous dit que la victoire, cette victoire qui vainc le monde, c'est notre foi. Et il explique ce qu'est la foi. La foi, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu incarné, le Verbe incarné. Vous avez certainement lu également cette traduction de l'Évangile. On nous rappelle les événements du soir de Pâques. Notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à ses disciples, à ses apôtres, au Cénacle. Ils étaient bouclés à double tour, ils avaient peur des Juifs. Et notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, leur dit plusieurs fois, deux fois, la paix soit avec vous. Et puis, il leur donne le pouvoir de confesser. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, les péchés seront retenus. Mais ce soir-là, Saint Thomas, l'apôtre, n'était pas là. Et donc, il ne voulait pas croire que Jésus était vraiment ressuscité. Donc, voyez-vous, dans cette page d'Évangile, il y a également la foi au premier rang. Et la foi, c'est de croire que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité et est vraiment Dieu. Et l'apôtre Saint Jean conclut cette page d'Évangile en disant que Jésus a dit beaucoup de choses, Jésus a fait beaucoup de miracles pour témoigner qu'il était réellement le Fils de Dieu, mais évidemment, on n'a pas pu tout raconter dans les saints évangiles. Donc la foi est au centre de cette fête de Pâques, la foi est au centre de cette messe de l'octave de Pâques. La foi, finalement, consistera en trois étapes, si je puis dire. La première étape de la foi, c'est la révélation. Pour croire, il faut une révélation. L'homme a deux manières de connaître les choses. L'homme connaît les choses humainement. Il les connaît humainement, eh bien, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sent, tout ce qu'il touche, ce qu'il réussit à déduire aussi avec son esprit des choses qu'il a pu voir. C'est ce qu'on appelle la science. La connaissance par la raison. Et puis, il y a un autre mode de connaissance, par la foi, même la foi humaine. C'est ce que nous dit Saint Jean. Si le témoignage des hommes, vous le croyez, eh bien, le témoignage de Dieu, il est plus grand, maius est. Alors, si vous croyez le témoignage des hommes, a fortiori, vous devez croire le témoignage de Dieu. Ce témoignage de Dieu, c'est ce qu'on appelle la révélation. Dieu nous a créés, il a créé l'univers, il a créé l'homme, et il a mis cet homme avec une intelligence qui lui permet de connaître plus profondément les choses. Et en plus, il a voulu donner à l'homme des connaissances supérieures, des connaissances surnaturel, car il y a des choses de Dieu qu'on ne peut pas connaître par notre simple raison. On peut connaître l'existence de Dieu par notre raison. Par exemple, le philosophe Aristote, Platon, Socrate, etc., et bien d'autres sont parvenus à dire, avec leur simple esprit humain, Dieu existe. Il existe une cause première de toutes les choses qui existent. Car s'il n'y avait pas une cause première, les choses n'existeraient pas. Et cette cause première, on l'appelle Dieu. Ça, c'est une connaissance qui est naturelle. Les hommes, tous les hommes en soi, sont capables de découvrir l'existence de Dieu. Mais Dieu a voulu nous en révéler plus sur lui-même. Il a voulu nous donner plus que notre simple nature humaine. Il a voulu nous élever à un ordre surnaturel. Il a voulu nous donner des connaissances surnaturelles, c'est-à-dire qui dépassent la nature. Et comment nous les donner ? Par la révélation. Dieu, dès les premiers temps de l'existence de l'homme, s'est révélé aux hommes. Il s'est révélé à Adam et Ève, nos premiers parents. Il s'est révélé à tous les descendants d'Adam et d'Ève, à Noé, aux patriarches après le déluge, et spécialement à Abraham et à ses enfants. Dieu leur a dit des choses, il leur a transmis des vérités que ces hommes devaient transmettre à tous les autres hommes. Ces vérités, c'est tout ce qui est contenu dans la Bible, dans la Sainte Écriture. La Sainte Écriture n'est pas une parole purement humaine. Elle est humaine dans ce sens que ce sont des hommes qui l'ont écrite. Oui, les premiers livres de la Bible, nous le savons, ont été écrits par Moïse. Mais ils ont été écrits sous l'inspiration divine. Donc quand Moïse parle, écrit la Genèse, l'Exode, etc., eh bien, ce n'est pas Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle. Et donc, tout ce qui est dit est vrai. C'est vrai historiquement, c'est vrai doctrinalement. Les vérités de foi qui sont contenues dans les Saintes Écritures doivent être crues, parce que c'est le témoignage de Dieu. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle lui-même à travers un homme, en employant même le style d'un homme. Voilà pourquoi le style de Moïse sera différent du style du prophète Isaïe, sans parler évidemment d'autres bien plus complexes, tels que Ézéchiel, Jérémie, etc. Mais donc, à chaque fois, c'est Dieu lui-même qui se révèle. Comment a-t-il démontré cette révélation? Il l'a démontré par les miracles, par les prophéties. On le voit spécialement dans la vie de Moïse, tous les miracles qu'il peut faire, ne serait-ce que les 10 plaies d'Égypte, ne serait-ce que la mer Rouge qui laisse passer le peuple hébreu et qui engloutit toute l'armée du pharaon, roi d'Égypte. Donc, à travers les âges, le bon Dieu a montré par des miracles et par des prophéties que ce qu'il disait dans les saints livres, dans les saintes écritures, c'était sa révélation. Et à la fin, il s'est révélé en venant lui-même au milieu de nous, notre Seigneur Jésus-Christ. J'insiste là-dessus, parce que la révélation, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. Nous n'existerions pas, je n'existerais pas, d'autres hommes existeraient, ça ne changerait rien. La révélation, elle existe toujours. Elle existe indépendamment de nous. Dieu a voulu se révéler à nous, c'est quelque chose d'objectif. De même que quand je connais les réalités qui m'entourent, quand je vous vois, vous qui êtes ici, je sais que vous êtes ici. C'est un fait. Ce n'est pas mon imagination. Eh bien, tout ce qu'il y a dans la Bible, je le sais aussi. Non pas parce que je le vois, mais parce que Dieu me le dit. Et Dieu qui existe ne peut pas se tromper, ne peut pas nous tromper. Je me permets d'insister et de vous montrer donc le problème par rapport à Jean-Paul II. Pour lui, la révélation, ce n'est pas ça, mes bien chers frères. C'est la révélation dans le sens moderniste, philosophiquement dans un sens existentialiste, subjectiviste. La révélation, pour lui, réside en ce que le Fils de Dieu, par son incarnation, s'est uni à chaque homme, qu'il est devenu en tant qu'homme l'un de nous. Donc vous voyez que la révélation n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais de totalement intérieur. C'est l'homme qui découvre sa divinité grâce au Christ, qui lui-même, homme, a dit « Je suis Dieu ». Donc si lui est Dieu, nous sommes tous Dieu. Voilà, résumé, si vous voulez, la pensée profonde de Jean-Paul II. Donc pourquoi j'ai choisi les images que j'ai mises? Parce que ces images, ce sont des rencontres de Jean-Paul II avec les autres hommes, avec les autres religions. Pourquoi cela? Eh bien, pour dire aux hommes qu'ils sont Dieu, qu'ils sont divinisés, que ce qu'ils ont à faire, tout simplement, c'est d'être sincères dans leur recherche de Dieu et correct avec les autres hommes. On n'a plus une religion qui est fondée sur Dieu, on a une religion qui est fondée sur l'homme. On n'est plus théocentrique, comme on dirait, on est anthropocentrique. On n'est plus centré sur Dieu, on est centré sur l'homme. Tout s'explique. Et Jean-Paul II était déjà comme ça avant même le Concile Vatican II. Jean-Paul II, mes bien chers frères, donc, avait été refusé, par exemple, à sa thèse de doctorat par le père Garrigou Lagrange, un éminent dominicain, éminent théologien. Et il a été refusé justement pour modernisme, pour existentialisme, parce que sa philosophie n'est pas la philosophia perennis, comme on dit, la philosophie pérenne, la philosophie éternelle, la philosophie réelle. Mais sa philosophie est la philosophie allemande, la philosophie de Kant, une philosophie qui n'est pas réaliste, mais qui est fondée uniquement sur ce qu'on appelle l'existentiel. Ce qui existe, c'est ce que vous ressentez. Donc la foi de Jean-Paul II, c'est quoi? C'est le fait de ressentir que vous êtes appelé à quelque chose de supérieur qu'à votre simple vie humaine. Voilà. Donc si vous êtes conscient de cela dans l'islam, c'est bien. Si vous êtes conscient de cela dans le vaudou, c'est bien. Si vous êtes conscient de cela dans l'hindouisme, c'est bien. Dans le bouddhisme, c'est bien. Partout, c'est bien. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'être conscient qu'on a quelque chose de supérieur en nous. Peu importe le chemin qui sera choisi. Voilà pourquoi il est allé à la rencontre de tous les peuples, de toutes les religions. Voilà pourquoi il a voulu même montrer, en participant au folklore extérieur de toutes ces religions, eh bien montrer comment il leur suffisait à eux d'être fidèles à leur spiritualité pour être sauvés. Voilà, mes bien chers frères, pourquoi fondamentalement nous refusons Jean-Paul II. Nous avons refusé Jean-Paul II comme véritable successeur de Pierre, parce que cela n'est pas possible qu'un vrai successeur de Pierre enseigne ce qu'il a enseigné, fasse ce qu'il a fait. Ce n'est pas possible, parce que le successeur de Pierre est le gardien de la révélation. Pas n'importe quelle révélation, pas une révélation subjective, mais la révélation de Dieu. Le successeur de Pierre est là pour nous transmettre la foi pour nous dire voilà ce que Dieu a révélé objectivement, pour nous dire que le Christ est la vérité, comme nous dit saint Jean, et pour nous dire que nous devons adhérer à cette vérité qui est extérieure à nous. C'est le deuxième point. Je vous ai annoncé trois choses, trois étapes, si vous voulez, dans la foi. La première, c'est la révélation. La deuxième, c'est la foi elle-même qui est en nous. C'est le fait d'adhérer à cette révélation. De même que nous adhérons à la vérité, à la réalité. Je vous ai donné l'exemple. Je sais que vous êtes là parce que je vous vois, tout simplement. Vous n'êtes pas le fruit de mon imagination. Et je m'en vais dans une pièce à côté, vous serez toujours là. Vous existerez toujours. Vous n'existez pas parce que je ressens votre existence. Non. Vous existez parce que vous existez, tout simplement. Vous ne dépendez pas, votre existence ne dépend pas de la connaissance que j'en ai. Donc de même, la révélation, nous adhérons à quelque chose qui est extérieur à nous, à la révélation divine. Voilà pourquoi nous pouvons dire « je suis dans la vérité ». Voilà pourquoi nous pouvons dire aux fausses religions « vous êtes dans l'erreur ». Ce n'est pas de l'orgueil, c'est tout simplement que nous adhérons à la réalité. Une réalité qui n'est plus d'ordre naturel, mais d'ordre surnaturel. Voilà, mes bien chers frères, pourquoi il n'y a pas d'orgueil à dire « nous avons la vérité ». Non, il n'y a pas d'orgueil, ce n'est pas moi qui fais la vérité, j'adhère simplement à ce que le bon Dieu m'a révélé. Dire qu'il y a de l'orgueil, c'est comme dire que je serais orgueilleux en disant « Madame une telle est présente à la messe aujourd'hui ». C'est ridicule, bien sûr. Eh bien, c'est la même chose dans l'ordre surnaturel. Et il faut en tirer les conséquences. Si la vérité, c'est la foi catholique, alors ceux qui ne croient pas, n'ont pas la foi catholique, sont dans l'erreur. C'est tout. C'est de la pure et simple logique. Il n'y a pas donc là, mes bien chers frères, d'orgueil. Il y a au contraire l'humilité d'adhérer à ce que Dieu a enseigné, à ce que Dieu a révélé. Voilà ce qu'est la foi. Ce n'est pas un sentiment personnel. Non, c'est l'adhésion à ce que Dieu a révélé et a toujours enseigné par notre mère, la Sainte Église. Troisième point, c'est la conséquence. La conséquence de la foi, c'est de vivre selon cette foi. C'est encore ce que nous disent les deux textes, les deux textes de Saint Jean, l'Épître et l'Évangile. Et si nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien il faudra vivre selon ce que Jésus a enseigné. S'il ne s'agit pas seulement d'avoir la foi, de croire, c'est déjà bien, c'est le premier pas. Mais il faut aussi agir selon, mes bien chers frères, cette foi, selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous disons pendant tout ce temps pascal avec saint Paul. Si consurrexisis cum Christo quae sursum sum querite, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont supérieures. Quae sursum sum sapite, goûtez les choses qui sont au-dessus de vous. Non quae super terram, non pas les choses de la terre. Et qu'est-ce victoria que vincit mundum? C'est cette victoire qui vainc le monde, notre foi. Comment vaincre le monde, le démon, les tentations, etc. Par la foi vécue au quotidien. C'est-à-dire, finalement, par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, goûter les choses d'en haut. Voilà donc, mes bien chers frères, le troisième point. Premier point, la révélation est objective. Dieu se révèle à nous. Deuxième point, nous adhérons à cette révélation. C'est ce qu'on appelle la foi. Et évidemment, la foi, en plus, est causée par Dieu. C'est-à-dire que si nous adhérons aux vérités, c'est une grâce de Dieu. Évidemment, il y a la plupart du temps une préparation de notre intelligence, mais ça reste une grâce de Dieu. Troisième point, d'ailleurs, le bon Dieu donne cette grâce, la propose à tous les hommes. Nous devons le croire, c'est de foi. Tous les hommes, un jour ou l'autre, ont la possibilité de voir que la seule vraie religion, la seule foi qu'il faut avoir, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ? D'une façon mystérieuse, mais nous devons le croire parce que l'Église l'enseigne. Troisième point, si nous avons la foi, eh bien il faut vivre selon cette foi. Il ne s'agit pas seulement, mes bien chers frères, de dire « oui, je crois en Dieu », mais de faire tout le contraire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se détournent de la religion ? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se détournent de la pratique de la religion catholique ? Parce qu'il y a beaucoup de mauvais catholiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas corrects parmi nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas cohérents dans leur vie. Alors certes, nous pouvons pécher. Nous sommes faibles, oui, mais l'important, mes bien chers frères, est à chaque fois de revenir et d'essayer de progresser et d'essayer d'avancer dans notre vie spirituelle. C'est aussi un des enseignements de cette fête de Pâques. Donc voilà, mes bien chers frères, résumé cette messe, les enseignements de la messe d'aujourd'hui et actualisés, si vous voulez, par rapport à cet événement extrêmement grave de la béatification, entre guillemets, de Jean-Paul II. Extrêmement grave pour les raisons que je vous ai dites. Parce que, au fond, c'est un homme qui n'avait pas la foi. Objectivement, il n'a pas la foi parce qu'il ne croit pas, parce que Dieu a révélé, il croit pour une autre raison. Il ne croit pas, il croit par son expérience personnelle. Et je reviens donc sur la révélation. Pour eux, les textes sacrés, la Bible, ce n'est pas Dieu qui parle, mais ce sont des hommes qui parlent de leur expérience de Dieu. C'est Moïse qui va nous raconter sa vie spirituelle, son expérience de Dieu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a pu voir, ce qu'il a compris. Et Isaïe, c'est pareil, tous les prophètes, etc. C'est exactement pareil. Voyez, ce n'est pas Dieu qui parle, qui va garder de toute erreur les textes écrits par les auteurs sacrés. Non, pas du tout. Donc Dieu pourra se manifester à Mahomet, à Bouddha, à Confucius, etc. Au grand Manitou même, si vous voulez. Et donc, mes bien chers frères, ce n'est plus la foi, c'est quelque chose qui émane tout simplement de l'homme. Un dernier texte de Jean-Paul II sur la rédemption justement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour terminer. La mort rédemptrice du Christ a été la naissance surnaturelle de l'homme, indépendamment du fait qu'il le sache ou non. Donc on va aller encore plus loin, qu'il le veuille ou non. Donc voyez, la mort rédemptrice du Christ, c'est la naissance surnaturelle de l'homme, indépendamment du fait qu'il le sache ou non. Tout le monde est sauvé. C'est ça que ça signifie, mes bien chers frères. Tout le monde est sauvé malgré lui. Même, au fond, si vous ne croyez pas, il n'y en a pas besoin. Vous êtes sauvé, que vous le vouliez ou non, que vous le sachiez ou non. Alors, ces gens-là nous parlent sans arrêt de liberté religieuse, etc. Mais où est la liberté ? Si nous sommes sauvés, que nous le voulions ou non, il n'y a plus de liberté. L'homme n'est plus libre. Dieu est encore plus tyran. Il est tyran, tout simplement, selon cette conception. Ça peut être paradoxal, mes bien chers frères, mais au fond, la vraie liberté, c'est la liberté chrétienne, c'est la liberté enseignée par la foi catholique. Ce n'est pas cette fausse liberté qui n'existe plus. Elle n'existe plus parce que quoi que vous fassiez, vous êtes sauvés. Alors ne vous choquez plus, soyons logiques, ne nous scandalisons plus des massacres, ne nous scandalisons plus si quelqu'un saccage notre maison. Non, de toute façon, il est sauvé, nous sommes sauvés, tout va bien. Ça n'a aucune importance, mes bien chers frères. Évidemment, ils n'ont pas tiré, eux, ces conséquences, ils ne l'ont pas dit. Mais c'est logique. Réfléchissez-y. Si vous supprimez l'objectivité de la foi, vous supprimez l'objectivité de la morale. Si vous supprimez l'objectivité de la morale, vous supprimez l'ordre social. C'est l'anarchie. L'anarchie est la conséquence logique des doctrines modernes, du modernisme spécialement. Voilà donc, mes bien chers frères, passer en revue brièvement sur ce point particulier de la foi, ce que nous dit l'Évangile, et puis ce que disait Jean-Paul II. La conséquence pour nous à en tirer, eh bien, c'est de rester attachés fermement, très fermement, à cette foi, attachés à la révélation, attachés à l'objectivité. Soyons objectifs, mes bien chers frères. Le réalisme, cette philosophie réaliste qui est la philosophie de l'Église, c'est le fondement de la théologie catholique, de la foi catholique. Les choses, elles existent, nous les connaissons. Dieu, il existe, nous le connaissons. La révélation, elle existe, nous en prenons connaissance et nous y adhérons. Eh bien, adhérons-y fermement, mes bien chers frères. C'est la leçon que nous devons en tirer. Adhérons-y fermement, restons attachés à cette foi et à tous les éléments extérieurs de la foi, que ce soit les conséquences morales, mais que ce soit aussi les conséquences liturgiques. Un fait liturgique, par exemple, évidemment, c'est une digression, mais qui a son sens. Pourquoi on a retourné les autels? Pourquoi on a mis une table? Parce qu'on n'est plus dans une religion de Dieu, on est dans une religion de l'homme. Le prêtre, il célèbre devant les gens, avec les gens autour. On est réunis ensemble. Là, on célèbre face à Dieu. Et le prêtre, il est comme un chef par rapport au peuple chrétien. Il est devant Dieu, il célèbre et vous êtes derrière, vous vous unissez à lui. Il n'y a pas de scandale, chacun est à sa place, Dieu à la première place. Les ministres de Dieu, entre Dieu et vous, le peuple. Voyez, c'est le point de vue. Tout a été changé et ça a été changé pour des raisons bien particulières. Ce n'est pas du hasard. On a changé la doctrine dans Vatican II, on a changé la liturgie après Vatican II, ça a un sens. Alors on nous parle souvent de tous les abus liturgiques, etc. Pas besoin d'aller sur les abus liturgiques des gens qui célèbrent entre guillemets la messe, entre guillemets déguisés en clown, etc. Oui, mais c'est pas là le problème. Le problème, il est beaucoup plus profond. Le problème, il est qu'on a évacué le bon Dieu pour mettre l'homme à la place. Résultat, l'homme est Dieu. C'est ce que je vous ai dit, et c'est ce qu'on voit à travers l'étrange théologie de Jean-Paul II. Voilà donc, mes bien chers frères, le remède à tout cela dans notre vie, c'est de penser d'abord au bon Dieu, de vivre pour le bon Dieu, de se sanctifier pour la gloire de Dieu. Dieu est notre Créateur, Dieu est notre Rédempteur, vivons pour le bon Dieu. C'est la conclusion de saint Paul, encore une fois, que nous lirons pendant tout ce temps pascal. Celui qui est ressuscité avec le Christ, eh bien, il doit vivre pour le bon Dieu. Le but, c'est Dieu. Notre origine, c'est Dieu. Donc, le remède à tout, c'est de se détacher de nous-mêmes, de l'homme, et de nous attacher à Dieu. C'est la conclusion que je voulais donner. Il n'y a qu'un seul remède au modernisme. Il n'y a qu'un seul remède à l'étrange théologie de Jean-Paul II et de Benoît XVI, c'est celui-ci. C'est de regarder vers le bon Dieu et d'être attaché à Dieu seul. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.